Aile de géant, aile de géant, aile de géant, aile de géant. Bienvenue sur Aile de géant, le podcast de l'École des lettres.
Aujourd'hui, Aile de géant reçoit Brigitte Smadja, autrice à l'École des loisirs, et Jean-Riyad Keshaou, professeur d'histoire-géographie au collège Camille Corot, à Chelles, pour une discussion autour des paraboles, des rituels religieux et du partage. Brigitte Smadja, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier à l'École des loisirs un roman intitulé « Le jour où tout a failli basculer ». Et Jean-Riyad Keshaou, dans les articles que vous avez écrits pour l'École des lettres, l'un posait la question « Comment enseigner les faits religieux à l'école ?» Aile de géant a eu envie de vous faire vous rencontrer pour un échange autour de ces questions en croisant la fiction et le réel. Brigitte Smadja, qui est ce Raymond à qui vous dédicacez le livre? Comment présenter le Raymond qui est votre personnage?
Raymond, c'est un petit garçon que j'ai rencontré qui était en CE2 à l'époque dans une école de Bobigny. J'aime énormément les prénoms, ayant eu de très grandes difficultés à accepter le mien, Brigitte, donné en référence, hélas, à Brigitte Bardot. Depuis, j'adore les prénoms. J'ai constaté, en ayant rencontré des milliers d'enfants, qu'au cours des années qui viennent de s'écouler, une vingtaine d'années, les prénoms se sont énormément diversifiés. On rencontre toutes sortes de prénoms. Dans mon livre, d'ailleurs, il y a des prénoms très étranges. J'ai rencontré un petit garçon qui s'appelait Navid, qui était un petit Normand, et j'ai appris que Navid était un prénom persan. Je note dans mes carnets souvent des prénoms. J'ai donné un nom qui est Arnaldur, qui est un prénom islandais. J'ai rencontré aussi, par exemple, un petit garçon breton qui s'appelait Djabril. Donc je lui ai demandé s'il avait des parents qui venaient du Maghreb ou tout ça. Il m'a dit pas du tout, nous on vient de Morlaix, toute ma famille vient de Morlaix. Donc il y a une très grande diversification des prénoms. Et à Bobigny, j'ai trouvé le prénom de Raymond, incroyablement, dans cette classe, incroyablement exotique. J'avais l'impression tout à coup que c'était l'enfant d'un tonton flingueur, enfin tout ça. Et il était absolument adorable. Et il m'a remis une lettre très très jolie que j'ai gardée précieusement, que j'avais montré à mon éditeur. Malheureusement, il n'avait pas donné son adresse. J'ai eu envie d'appeler mon personnage Raymond, et du coup, je lui ai dédié ce livre, en espérant un jour qu'il tombera dessus, et c'était une façon de le remercier, d'autant plus qu'il s'appelait Raymond Mercier. Le personnage de Raymond, je voulais que ce soit un héros de roman, parce que le livre, c'est d'abord un roman. Il fallait qu'il y ait du suspense et une histoire d'amour aussi, entre ce petit garçon et cette petite fille. C'est un personnage qui découvre tardivement, mais en fait à l'âge de 6 ans, que dans le pays où il vit, la Valpésie, il y a des gens qui s'appellent des frotte-oreilles, des gens qui s'appellent des plumes jaunes, des gens qui sont des surimpieds. Mais jamais, en fait, les gens ne se revendiquent comme ayant cette identité. Il ne peut pas le découvrir, parce que pour découvrir qui est surimpied, qui est etc., et il faut pouvoir dormir chez un des amis. Et lui, il n'a jamais dormi chez un ami. Aucun ami est venu dormir chez lui, parce que comme il faisait pipi au lit, il était terrorisé à l'idée que ça lui arrive devant un de ses amis. Donc il découvre très tardivement ces groupes et il demande à ses parents « Mais nous, qu'est-ce qu'on est ?» Et ils lui répondent « Ben nous, on est des Cécelons. » Et à la suite de cela, il l'invite à inviter des amis pour comprendre par lui-même de quoi il s'agit. Dans la première partie du livre, en fait, mon idée, c'était de faire oublier complètement ces différences et de voir comme ça tous ces personnages d'enfants avoir des amis, des amitiés, des histoires d'amour. Ils vivent tout ça très normalement. Et puis, au milieu du livre, il y a une bascule qui s'opère parce qu'il y a un surimpied qui vient d'ailleurs et qui va tout à coup bouleverser l'harmonie qui règne entre tous ces enfants. Voilà. Alors, je précise une chose, c'est que Raymond, un Cécelon, pour moi, c'est soit un athée, soit un agnostique. Parce qu'à un moment, le personnage se retrouve avec ses parents en train de, entre guillemets, saluer la lune, et il a ce sentiment qui me paraît être pas du religieux, mais du sacré, et il dit « Je me suis senti à la fois très grand et très petit ». C'est-à-dire vraiment un sentiment qui est le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, que n'importe quel enfant, n'importe quel individu, indépendant des religions qui sont les siennes, peut ressentir.
Donc vous dites que Raymond peut être soit athée, soit agnostique. Est-ce que Par conséquent, on peut considérer que le jour où tout a failli basculer est une sorte de parabole.
Je ne l'ai pas écrit, moi, du tout dans cette optique-là. Je l'ai écrit parce que, au cours des très nombreuses années où j'ai rencontré des enfants, j'ai vu s'opérer quelque chose qui m'a profondément touchée, c'est de voir que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont touchés par la question religieuse. Et c'est pour ça que je suis, j'allais dire, concernée par cette question de l'enseignement du fait religieux à l'école, de considérer que le fait religieux, c'est comprendre ce que c'est qu'une civilisation, et qu'il est très important que les enfants fassent la distinction entre la croyance, le savoir, qu'ils puissent échanger autour de ça, parce que c'est vraiment une préoccupation pour eux. Je vais vous donner une anecdote. Par exemple, dans une classe de tout petit, c'était en CP, il y a une petite fille qui m'a dit « J'aimerais beaucoup, Brigitte, lire ton livre « Ma princesse aime les saucisses », mais je ne sais pas si je peux le faire parce que je voudrais savoir d'abord si les saucisses sont cachères. » Parce qu'elle était juive. J'ai pu avoir la même réflexion d'une petite fille qui me demandait si elle pouvait le lire aussi parce que si les saucisses étaient halal. Alors que moi, à l'époque, en écrivant le livre, évidemment, je ne me suis pas du tout posé cette question. Une autre fois, une petite fille dans une banlieue où, on le sait, c'est absolument tragique, on sait à quel point ces banlieues en France se sont ghettoisées, c'est-à-dire qu'on a une mixité qui n'existe plus. Ben, j'ai vu une petite fille adorable, Marois, qui tout à coup semblait terrifiée parce que je lui disais que j'étais juive. Elle était déjà, ou on lui avait inculqué cette idée que les juives étaient soit diaboliques, soit, enfin, peut-être que j'étais effectivement la première juive qu'elle rencontrait. Et en passant évidemment du temps avec eux, après, ben, c'était absolument merveilleux, parce qu'ils m'ont dit, mais t'es très gentille, etc. Ils étaient tout à fait surpris de voir que j'étais pas la juive. Ils avaient quitté cette représentation qu'on leur avait inculquée et qui était très négative. Dans des classes à Limoges, ou là, des ados, cette fois-ci en collège, me disaient qu'ils n'étaient pas français, alors que la plupart d'entre eux étaient nés en France. Il y a là quelque chose qui me disait, nous, on n'est pas français, on est musulmans. Musulmans avant d'être français. Comme si c'était deux choses, deux identités incompatibles. Je vois qu'il y a là des souffrances, ça me préoccupait, j'avais envie d'écrire quelque chose, j'ai mis énormément de temps à le faire. Parce qu'il fallait aussi trouver une fiction, une fable. Donc j'ai inventé un pays qui s'appelle la Valpésie. Je me suis mis à lire par exemple des tas de choses sur le Lévitique, où on découvre des interdits alimentaires que je trouvais cocasses, sur ces histoires de manger de la viande, mais à condition qu'il y ait les pieds fourchus, pas fendus, etc. J'ai découvert avec stupéfaction par exemple que les sauterelles étaient cachères. Des choses très amusantes comme ça. Et moi j'ai inventé évidemment d'autres... Alors, est-ce que c'est une parabole? Si c'est une parabole, ce serait autour de... C'est un mot un peu passe-partout. Ce serait autour de la tolérance, c'est-à-dire chacun peut croire ce qu'il veut, manger ce qu'il veut, à condition, bien entendu, de ne pas l'imposer aux autres et que cette croyance ne vienne pas perturber l'harmonie d'une communauté. Qu'on puisse être tous ensemble et que ce qui compte, c'est ce que montre le livre aussi, ce qui compte, c'est des choses infiniment plus importantes que manger des tomates ou pas des tomates. Et à la fin du livre, c'était pour moi très important que Raymond sauve, parce qu'il y a un personnage, il le sauve de la mort, de la noyade, et que ça, c'est infiniment plus important que savoir si on est un surimpied ou un frotte-oreille ou une plume jaune.
Vous évoquez les questions d'identité, les questions de croyance. Dans la première partie, tout du moins, ce qui frappe, c'est des questions d'habitude et d'interdits alimentaires que découvre votre personnage Raymond, et puis aussi des questions de salut à la lune, au soleil. Ça peut s'apparenter à des rituels religieux, d'ailleurs vous venez de le dire, mais on peut se demander aussi si ça pourrait représenter des rituels communautaires, philosophiques, politiques.
Cette idée du salut au soleil et à la lune, elle m'est venue d'un enfant. C'est un enfant... Quand on parlait justement, il y avait une espèce de tension autour de « moi, ma religion, c'est ça, moi, ma religion, c'est ça ». Et puis un petit, tout petit, c'était en CE2, qui a dit « il y a forcément qu'un seul Dieu dans le ciel. Il ne peut pas y en avoir quand même plusieurs. On a forcément le même. Parce que si les dieux se disputent entre eux... » Enfin, il y avait quelque chose qui était très touchant chez cet enfant. Alors j'ai repris une chose qui est aussi très traditionnelle, hein, qu'on trouve dans plein de mythologies, qui était que tous ces groupes, en fait, ce qui les différencie, c'est la manière dont ils saluent le soleil le matin et la lune le soir. Mais c'est simplement la manière. Pour le reste, c'est la même chose. C'était aussi cette pensée d'enfant qui tout à coup avait surgi, qui disait « peu importe qu'on se mette à genoux, ou qu'on se mette comme ci, ou qu'on se mette comme ça, ce qui compte, c'est le salut, la reconnaissance qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. »
Jean-Yves Quéchaou, vous avez choisi un extrait du roman de Brigitte Smadja. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet extrait ?
On découvre une fête d'une des communautés du livre, les Frotte-Oreilles. Et en fait, cette fête est la fête préférée de Raymond, mais certainement de l'ensemble des enfants, parce que c'est une fête très joyeuse, nocturne, et elle rassemble les différentes communautés. Avant les événements qui nous ont tous bouleversés, ces interdictions alimentaires, ces saluts à la lune et au soleil, ne nous avaient jamais empêchés de pique-niquer tous ensemble au bord du fleuve, de nager, pour ceux qui savent nager, de filer un coup de main à nos voisins, d'échanger des recettes de cuisine, d'inventer de nouveaux jeux, de tomber amoureux et de participer aux fêtes des uns et des autres. Et dans l'année, elles sont nombreuses. Moi, ma fête préférée, c'est la fête des fleurs, la plus grande fête des Frotte-Oreilles, la plus belle, la plus joyeuse, la seule qui commence au coucher du soleil et dure toute la nuit, la seule où il est interdit de dormir. Et c'est justement quelques jours avant cette fête que commence l'histoire qui a changé ma vie. 3 mois auparavant, j'avais rencontré Suzanne.
Merci beaucoup, Jean-Riad, d'avoir choisi cet extrait. C'est aussi, j'ai écrit ça aussi parce que j'ai un souvenir en Tunisie. Moi, j'habitais l'été, on était à La Goulette. Et le 15 août, il y avait la fête de la Vierge Marie. Alors, moi, je ne savais pas du tout que c'était la Vierge Marie spécialement. Mais il y avait une procession avec la Vierge. Et ce qui était absolument merveilleux, c'est qu'ils sortaient la Vierge. Donc, c'était les Siciliens qui habitaient en Tunisie. Parce qu'il faut rappeler quand même, et je le dis aux Italiens et tout ça, c'est vrai qu'ils sont... Ils ont des problèmes à Lampedusa et tout ça, mais leur rappeler qu'il y a eu une période aussi où eux-mêmes sont venus en Tunisie, ont été accueillis par des Tunisiens sur les côtes et tout ça. Et c'était merveilleux parce qu'il y avait la Vierge qui passait et il y avait alors, musulmans, juifs, tout le monde mélangé qui faisait les you-you en suivant, en suivant la Vierge. Ça posait absolument mais aucun problème. Mon père tenait un restaurant quand il y avait la fête du mouton. On était aussi invités à partager le mouton. Chez nous, le jour du Shabbat, il y avait toujours une place qui était libre pour le cas où quelqu'un aurait besoin de manger. Il y avait quelque chose, alors c'est peut-être très idéalisé dans ma tête d'enfant, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce qui m'émeut beaucoup, c'était cette idée que les croyances, ben, elles peuvent être aussi généreuses, partagées.
On rejoint l'idée du partage qu'on évoquait tout à l'heure en introduction. Juliette, qu'est-ce qui vous évoque en fait cet extrait ? Est-ce que vous connaissez aussi des fêtes comme ça qui célèbrent ce partage ?
Alors avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Brigitte Smadja. Ce qu'elle décrit, on me l'a raconté, c'est mon père qui me l'a raconté parce que mon grand-père était receveur des postes à La Goulette et qu'il a l'été dans les années 60, connaissait très bien ses processions. Il me parle de ses copains maltais, siciliens, juifs, chrétiens, musulmans. Et qu'il y avait un partage. La seule chose qui séparait les communautés, c'était le mariage. Il fallait faire un petit peu attention. C'est d'ailleurs ce que décrit très bien le film Un été à La Goulette.
C'est vrai, tout voilà. À fait.
Cette Tunisie idyllique que vous décrivez, moi, on me l'a décrit. C'est pas une description d'enfant, c'est une description totalement honnête de ce qui se passait en Tunisie jusqu'à, malheureusement, ce fameux été 67 avec la guerre des six jours, qui a opposé donc les États arabes et Israël. C'est une guerre qui a été, malheureusement, en Tunisie, la fin d'une très longue période de présence pour la communauté juive tunisienne parce que beaucoup, après, ont fait le choix d'émigrer. Et je tiens à le rappeler, c'était vraiment une terre de partage, la Tunisie, où les communautés vivaient très bien les unes avec les autres. C'est juste la petite parenthèse, je pense qu'elle est importante, parce que souvent, on renvoie un certain antisémitisme sur une certaine communauté aujourd'hui, parce qu'on le voit depuis la France, mais autour de cet antisémitisme, il y a tout un contexte géopolitique qui s'insère dans notre société française, qui est destructeur, et qui amène ce genre de remarques que vous avez pu entendre dans cette école primaire. Et tout ça, on essaye, nous, aux profs d'histoire, de le déconstruire au collège notamment, lorsque les identités se forgent, en leur expliquant que tout ça, il faut apporter de la nuance à cette vision binaire des choses, les gentils, les méchants, etc. Le choix de l'extrait, en fait, c'est un choix qui est assez politique aussi de ma part. Il m'a fait penser à la fameuse commission Stasi, qui s'était réunie avant le vote de la loi sur les signes ostentatoires dans les écoles publiques et laïques en France. Et en fait, cette commission Stasi, elle ne s'était pas contentée de proposer l'interdiction des signes ostentatoires à l'école, au collège et au lycée, mais elle avait proposé aussi l'instauration de 2 jours fériés supplémentaires dans notre calendrier, le Yom Kippour et le petit Aïd qui clôture le mois de Ramadan. Je pense que cette proposition-là, elle avait toute sa place dans cet arsenal juridique parce qu'elle aurait donné une autre opinion de la laïcité à une certaine communauté, et évidemment je parle de la communauté musulmane, parce que la loi, telle qu'elle a été perçue, on l'a d'ailleurs nommée la loi sur le voile à l'époque, la laïcité a été perçue comme une laïcité offensive, s'attaquant uniquement à une communauté. Et si on avait mis dans cet arsenal-là ces deux jours fériés supplémentaires, pour la symbolique et sur la forme uniquement, c'était un message qu'on adressait à l'ensemble des Français. Et d'autre part, ça nous aurait permis de peut-être découvrir l'autre, d'aller fêter Yom Kippour chez le voisin, d'inviter le jour de l'Aïd d'autres voisins. Et ça, je pense qu'on a loupé le coche, les députés ont loupé le coche, car c'était dans la commission Stasi. Quand je lis cet extrait, je me dis que c'est encore possible aujourd'hui, en découvrant l'autre, de partager des moments, parce que le vivre ensemble, c'est aussi faire des choses ensemble. Et on a tendance à l'oublier.
Je vais rebondir là-dessus, parce que j'ai eu des élèves, j'ai travaillé pendant 7 ans au collège, puis après j'étais au lycée Turgot, puis après dans un lycée technique, et au lycée Turgot, on avait évoqué justement les jours fériés. Et mais alors, le problème, c'est qu'il y avait plein de Chinois dans ma classe qui disent « Alors, mais alors, pourquoi pas un jour férié pour le jour de l'an chinois ?» Et dit là, on va jusqu'où on peut aller. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le jour de l'an chinois. Je traverse la place de la République et je vois tous ces lampions rouges qui sont allumés. Je me dis, il y a une façon aussi de célébrer les fêtes. C'est pour ça que j'aimais cette procession à la Goulette, qui est généreuse, c'est-à-dire où on offre les lampions, comme dans la fête des fleurs. Là, tout le monde vient, tout le monde est habillé en blanc. Enfin, il y a quelque chose qui peut être tellement joyeux.
C'est vrai que pour les Parisiens, le Nouvel An chinois est une fête très collective.
Très. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que, au moins, sur ces deux communautés, juives et musulmanes, ça aurait été très certainement, en tout cas, un signe adressé à ces communautés très importantes.
Alors, Brigitte Smadja, la Valpésie est une terre de partage, pourrait-on dire de tolérance ? Sans groupe dominant apparent, sinon peut-être les Cessolons qui n'ont pas d'interdit alimentaire et qui donc peuvent se nourrir de tout avec tous. Le narrateur, Raymond, est d'ailleurs un Cessolon, sans appartenance et donc tolérant. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit là d'une vision idéale de la laïcité ?
Raymond, je dirais pas du tout que c'est bien une communauté qui est supérieure aux autres. Navid est un personnage, c'est un frotte-oreille qui est un personnage très important dans le livre. D'ailleurs, c'est lui qui trouve toutes les solutions à la fin, qui est extrêmement courageux. Parce que Raymond, lui, il est très amoureux de sa Suzanne qui est enfermée, qui ne peut plus voir. C'est plutôt Navid qui dit « Attention, pas de grabuge, on va trouver des solutions. C'est pas la peine de s'énerver parce qu'il y a ce surimpied qui arrive de l'extérieur ». Et qui va déterminer, et ça aussi, ce sont des paroles d'enfants qui m'ont tellement marqué, qui va dire qui est un vrai sur un pied, qui n'est pas un vrai sur un pied, qui est un vrai frotte-oreille, qui n'est pas un vrai frotte-oreille. Phrase que j'ai entendue chez des enfants qui n'existaient absolument pas il y a 20-30 ans, où tout à coup, des enfants disent « Moi, je suis un vrai musulman. Lui, c'est parce qu'il ne fait pas comme il faut, il ne fait pas les 5 prières, il n'en fait que 2. » Donc, il y avait toute cette question, je trouve Navid est un personnage très très fort. Moi, j'ai choisi Raymond pour des questions purement romanesques et cette idée que lui découvre très tardivement. C'est une stratégie d'écriture de faire découvrir ses communautés à travers ce regard un peu innocent. Pour moi, il n'a pas du tout de supériorité par rapport aux autres. Et puis, à cette discussion, il discute avec Navid, il dit quand même, sur ses interdits alimentaires, tu aurais pu me dire quelque chose. Et l'autre lui répond, bah, tu sais, il y a des pays où on mange des sauterelles crues ou je sais pas quoi, ou des cafards, ou des insectes grillés, et puis finalement, tout ça n'a aucune importance. Et c'est ça qui m'importait beaucoup, c'est de dire que, pour eux, ça n'est pas important. Ils sont jamais, on envoie un enfant dire, il faut manger que du cru, comme les plumes jaunes, ou bien, il faut pas manger de rouge, c'est très mauvais le rouge, jamais, jamais, jamais ça se passe. Il y a aussi ce passage où, à la fin du livre, ils essaient de convaincre ce cousin venu de loin, qui vient mettre un petit peu, enfin même pas mal de perturbations dans le groupe. Et il y a ce personnage de Marvin que j'ai construit sur, c'est Marvin Gaye un peu. C'est un peu un rasta, un ancien sur un pied d'ailleurs, et qui vient dire au cousin, mais écoute, il va y avoir un grand festin, t'es pas obligé de manger, les sur un pied ne mange pas du blanc. Alors il dit, bah, t'es pas obligé, il y a plein d'autres choses à manger, ben tu prendras ce qu'il y a à manger. Je pense pas du tout que le Cessolon soit un personnage dominant. Les parents de Raymond, par exemple, ne donnent de leçons à personne. Ils sont, Ils sont assez discrets, enfin, ils sont absolument comme les... Ils sont très amis avec les parents de Navi, de... Il n'y a pas de prédominance. En tout cas, j'espère que ça n'apparaît pas dans le livre. Moi, je les sens très à égalité, les groupes.
Oui, il y a quelque chose de très pacifié chez les enfants, mais on imagine bien qu'ils l'héritent de leurs parents, parce qu'en tout cas, il n'y a pas de tension avec la génération des parents. Et ce que vous disiez sur les questions d'identité, on se découvre quelque chose à la préadolescence, parce qu'on imagine que c'est à peu près ça, 11-12 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, enfin en tout cas, on imagine qu'ils ont cet âge-là. Jean-Yves Kéchaou, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, vous, chez vos élèves, la question de la découverte des identités, et puis cette question de savoir quand est-ce qu'on est un vrai et quand est-ce qu'on n'est pas un vrai?
Moi, je pense qu'il y a un passage à l'adolescence très compliqué, surtout dans nos grandes métropoles où il y a un brassage de culture. Ce passage compliqué, en fait, c'est cette construction identitaire. C'est-à-dire que dans les cours d'école, en général, jusqu'en CM2, 6e, on n'a pas des élèves qui sont trop revendicatifs sur une appartenance à une communauté, à une religion. Et ils découvrent finalement, surtout au collège, en 6e, surtout en 5e, 4e, ce qu'ils sont, leurs origines, leur religion, et ils l'affirment parfois par provocation. L'adolescence est ainsi faite, et qu'on a besoin de revendiquer cette appartenance. Parfois, ils le font en étant très maladroits. Le message que je veux adresser ici, c'est qu'en 20 ans, j'ai toujours accueilli cette parole avec bienveillance. Il est important de recueillir cette parole et de ne pas faire aujourd'hui, malheureusement, comme certains collègues, s'offusquer dès la moindre provocation, d'en faire une tribune dans un journal en disant « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien enseigner ». Prenons cette parole-là, parfois provocante de la part d'un élève. « Moi, je suis de telle religion, je détiens la vérité, pas vous. » Et cherchons à comprendre déjà pourquoi cette parole-là sort à ce moment du cours. Et ensuite, rappeler qu'on détient quand même une certaine autorité scientifique et lui rappeler que même au sein de sa propre communauté, il y a des débats et que cette vérité-là, elle n'est pas admise par tous, que finalement, il y a différentes façons de procéder. Mais en fait, le vrai, il dépend de la personne qui l'annonce, parce que beaucoup pensent détenir la vérité. Sur l'identité propre, c'est dans le programme de 5e. L'identité, c'est un cours d'éducation morale et civique très important pour moi. J'y passe énormément de temps, quitte à oublier d'autres passages du programme, parce que j'estime que c'est important pour eux de comprendre, de faire une distinction entre la religion, les origines, la nationalité, les goûts, les couleurs, la sexualité. Et tout ça fait l'identité de ces jeunes adolescents, de ces préadolescents en 5e. Et c'est un cours qui est passionnant. C'est un cours que les élèves adorent. Et c'est un cours qui parfois peut être compliqué au départ parce qu'on a des remarques. Mais moi, je vis de ces remarques-là. Je m'alimente de ces remarques. Et un cours trop lisse, pour moi, c'est un cours qui est... quasiment loupé.
Je suis très très heureuse d'entendre cette réflexion de Jean-Riad, ayant moi-même enseigné quand même près de 40 ans, avec passion. J'ai été un professeur très heureux. J'ai enseigné en banlieue, j'ai enseigné en lycée technique. Le dernier lycée d'enseignement général, c'était Edgar Quinet. Je l'avais choisi parce qu'il était dernier dans le Nouvel Observateur. Et je me suis dit, tiens, classé dernier, je vais demander ce lycée-là. Je suis très touchée de cette parole-là. Il y a beaucoup d'enseignants qui enseigne à des adolescents et qui n'aiment pas les adolescents. Or, quand on enseigne en collège et quand on enseigne en lycée à 15, avec des gamins qui ont 15 ans, en plus il y a tout qui pète à 15 ans, enfin c'est vraiment... il faut vraiment, je ne trouve pas un autre mot, il est peut-être un peu débile, mais il faut vraiment les aimer. Moi je les aime comme ils sont. Effectivement, accueillir cette parole, même si elle est brutale, même si elle est difficile à entendre, la prendre comme elle est, c'est-à-dire une parole d'adolescent aussi, où il y a une part de provocation. Il faut s'affirmer, il faut revendiquer, il faut aussi être intéressant par rapport au groupe, par rapport aux autres, montrer qu'on n'a pas peur du prof, montrer, etc. Il faut faire la part des choses, et puis tranquillement analyser, déconstruire, mais vraiment accueillir toutes ces paroles, et puis prendre le temps de revenir là-dessus, et d'arriver à faire quelque chose qui permette une écoute du groupe. C'est vraiment passionnant. Et je crois que c'est possible, voilà, surtout.
Brigitte Mazia, dans votre roman, le perturbateur, le rigoriste, on pourrait dire le fondamentaliste, arrive de l'extérieur, dans un monde, nous venons de le dire, qui est relativement pacifié, où quand il y a des tensions, elles s'atténuent. Et la réaction de vos personnages, c'est d'aller le voir, En se répétant cette phrase clé, vous parliez du personnage de Navid, qui est effectivement un personnage très fort, et ce qu'il répète, c'est « pas de grabuge oui. ». Ça devient comme une sorte de mot-clé, de mantra presque, « pas de grabuge ». Alors je me suis demandé, est-ce que cette réaction en fait, des enfants du groupe d'éviter le combat, d'éviter le conflit, c'est quelque chose que vous avez rencontré déjà, l'un et l'autre, d'ailleurs Brigitte Smadja, Jean-Riad, qui sont dans votre classe?
Ben c'est un petit peu dans la suite, de, me semble-t-il, de ce qu'on vient de dire. Quand il y a une parole qui peut paraître provocatrice, ou en tout cas qui vient bousculer quelque chose, ben c'est ne pas faire en sorte que ça prenne une importance tellement grande que ça menace tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le livre? C'est quoi? C'est un cousin qui vient, c'est un personnage qui prétend tout savoir sur sa religion, tout, il sait tout. Et donc, il considère les autres comme des ignares. Moi, je le sais parce que je viens d'une famille, en tout cas, une grande partie de ma famille est analphabète. Donc, ils avaient une approche du judaïsme qui est une approche très, très, très naïve. Ils ne savaient pas dire les prières en hébreu. Ils ne savaient pas très bien à quoi correspondait, je ne sais pas quoi, la fête d'Esther, c'était quoi, ils ne savaient pas. Mais ils la faisaient quand même. Ils réunissaient quand même leur famille. C'était ouvert. Mais ils n'avaient pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir d'érudit pour pouvoir exprimer leur religion ou leur foi. Ça n'est pas obligatoire. Ce qu'apporte ce personnage, c'est cette idée que la religion est intimement liée au savoir, que si on n'a pas un savoir d'érudit, en quelque sorte, on n'est pas un vrai sur un pied. Et ça bouleverse tout le monde. J'ai été très touché par un texte de Rousseau que vous connaissez tous, hein, dans la profession du vicaire savoyard, et qui parle de la religion du cœur, qui fait une distinction entre le texte, la littéralité du texte, la littéralité du rite, et puis tout simplement cette foi du cœur. Quand les enfants font leur salut à la lune et au soleil, ils disent une chose qui est très simple. Ils lui demandent pourquoi tu le fais, pourquoi il faut le faire, pourquoi tu le fais. Et c'est Paloma, qui est une plume jaune, qui répond « Quand je salue la lune avant de me coucher, ça apaise mon sommeil ou ça me donne de beaux rêves. Et quand je me réveille le matin et que je salue le soleil, ça me met de bonne humeur pour la journée. » Je dis, si la foi et la religion, c'est ça, ben c'est formidable. Je salue la lune et le soleil tous les jours.
Alors, pour revenir à votre question sur ce cousin de l'extérieur qui pense détenir la vérité et qui s'impose un peu comme un intégriste dans le livre, la réponse est que très peu d'élèves font référence à des gens venus de l'extérieur. Par contre, le « on m'a dit que », il est très présent dans le discours de certains. « On m'a dit que », sur Internet, j'ai vu. Très rarement, le rabbin, le curé ou l'imam, ça on me l'a jamais dit. Mais je sais que certains de mes propos ont été rapportés notamment à l'imam du quartier, que je connais un petit peu. Et ça ne m'a pas dérangé, en fait. J'en ai pas fait tout un pataquès. Et l'imam, en fait, a confirmé mes propos. Lorsque je rappelle que la religion musulmane s'inscrit directement dans la lignée des religions juives et chrétiennes, que je leur dis que le Dieu est unique, justement, que c'est simplement le terme qui diffère, Yahvé, Allah ou Dieu, c'est le même Dieu. J'ai déjà certains qui contestent, parce qu'en fait, ils n'ont aucune connaissance.
Ça, c'est ce que vous dites. L'inculture
religieuse, elle est terrible. Lorsque je leur rappelle qu'un musulman ne mange pas de porc, mais que c'est une référence biblique, et que les juifs eux-mêmes ne mangent pas de porc, certains le découvrent. Et pareil pour ce qui est de la viande cachère, lorsque je leur dis qu'ils peuvent très bien, ceux qui respectent le riz de la viande halal, manger de la viande cachère, la plupart le découvrent avec moi. Pareil, lorsqu'on visite une église, ils ne savent pas s'ils ont le droit d'y rentrer ou pas, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Donc souvent, en les provoquant, je leur dis, écoute, réfère-toi à une autorité religieuse et tu verras si j'ai tort ou pas. Et j'ai souvent des élèves qui reviennent avec un sourire un peu gêné en me disant, vous aviez raison, monsieur. Et moi, bon, j'essaye d'avoir le triomphe modeste, mais j'ai du mal. J'ai toujours un petit sourire moqueur, gentiment, mais en leur rappelant qu'ils ont 11-12 ans, qu'ils n'ont pas encore tout ce savoir suffisant pour parler au nom de tout le monde et de leur religion, que souvent, malheureusement, avec leurs propos parfois un peu déplacés, ils ont même tendance à salir leur religion, parce que des gens vont prendre, des collègues peuvent me ramener des propos d'élèves en pensant que c'est vraiment ce qui est inscrit dans le dogme de leur religion. Et ça, il faut toujours le rappeler avec insistance, c'est des ados, ils se construisent, ils n'ont pas tout savoir. Donc ma thèse, moi, c'est que la culture religieuse, elle est indispensable aujourd'hui, dans une période assez trouble, dans une période de tension communautaire. On doit connaître les fondements de la religion chrétienne, ceux de la religion juive, la religion musulmane, mais aussi des religions asiatiques, bouddhistes, hindous, qu'on a tendance aussi un peu trop à ignorer, alors qu'on a des communautés qui sont de plus en plus importantes de ces deux religions-là. Pourquoi cette culture religieuse? Déjà, premièrement, pour décrypter l'actualité, décrypter certains faits historiques. Régis Debray, dans son rapport d'il y a 20 ans, parlait de faits de croyance. On ne peut pas comprendre les croisades si on ne comprend pas que Jérusalem est une ville très importante pour les chrétiens, car Jésus serait mort. Oui, en l'occurrence, là, je parlais des croisades, mais oui, ça pourrait être aussi le conflit israélo-palestinien. Donc, pour moi, le conflit israélo-palestinien est un conflit, malheureusement, qui cristallise certaines tensions. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de tabou dans l'enseignement. Et donc, il est totalement facultatif et pour moi, il est totalement obligatoire. C'est-à-dire qu'en classe de 3e, j'y passe au minimum une heure. Je sais qu'à travers l'étude que je vais faire avec eux de ce conflit, je vais déconstruire beaucoup de préjugés en leur expliquant que l'un des fondateurs de la résistance palestinienne, c'est un arabe chrétien. Certains découvrent qu'on peut être arabe et chrétien alors qu'il y a 30 millions d'arabes chrétiens et que les arabes chrétiens de Palestine ont été autant victimes que les Palestiniens musulmans, lorsque je leur rappelle aussi qu'on peut être aussi juif et pro-palestinien, qu'on peut être aussi juif et neutre, et qu'il faut éviter de faire des amalgames réducteurs. C'est ce certainement qu'ils entendent, qu'ils voient aussi dans certains médias, ce qui les amène ensuite à dénigrer les juifs en faisant cet amalgame juif égal tortionnaire de Palestiniens.
C'est ce que je leur dis d'ailleurs, je leur dis, vous voyez, moi je suis juif, mais j'ai décidé à l'âge de 15 ans que jamais je ne mettrais les pieds en Israël tant que la Palestine ne sera pas construite, tant qu'il n'y aura pas un État palestinien. C'est tout le temps ça. Il me dit, mais t'es juive, donc t'es sioniste, donc t'es israélienne. Et alors il faut sans arrêt déconstruire et dire, j'ai dit, mais moi les gens que je lis en Israël, c'est Amos Oz, c'est des gens extraordinaires, c'est la paix maintenant, c'est Netanyahou, je le déteste. Enfin, il faudrait que tous les professeurs soient aussi convaincus que Jean Riad.
Convaincu, ça je le suis, et comme je suis passionné par ces moments de l'histoire-là, forcément j'ai le bagage qui me permet d'être à l'aise face à eux. Par contre, il faut aussi que l'institution nous soutienne dans cet enseignement, et aujourd'hui, on a des tabous historiques. En tout cas, au collège, le conflit israélo-palestinien n'est pas clairement mentionné. On a tendance à mettre en avant aussi dans l'étude du fait religieux plus la civilisation et tout ce qu'elle amène grâce à la religion que la religion en tant que telle. On peut d'ailleurs parfois entendre certaines remarques. Vous traitez trop frontalement des religions, oui, mais selon moi, c'est nécessaire d'avoir une base sur la vie de Jésus, celle de Mohamed ou celle de David. Parce qu'avec cette base culturelle-là, on va mieux comprendre certains faits historiques. Et on a encore cette vision erronée de la laïcité qui devrait nous interdire d'enseigner le fait religieux, alors que pas du tout. Je veux dire, être profondément laïque, c'est aussi être en pleine conscience de ce qu'est l'autre, pour pouvoir le respecter et gérer. Pour moi, la tolérance, c'est une notion vraiment au rabais, pour le considérer comme son frère, plus que le tolérer.
On a encore du chemin à faire avant d'arriver en Valpésie, Brigitte Smadja.
Ah oui, ça sûrement, oui. Sûrement.
On a parlé tout à l'heure de la Tunisie des années 60.
Voilà.
Donc, s'ils l'ont fait, pourquoi pas ici? Moi, je pense qu'on peut, mais notre vie est trop parasitée par des débats ultra-médiatisés qui ne reflètent pas réellement ce qu'on vit sur le terrain. Et par écho, on a l'impression de vivre des tensions, alors que parfois, non, pas du tout. C'est juste des moments de vie qu'il faut accepter.
Merci beaucoup, Brigitte Smadja. Merci beaucoup, Jean-Riad Keshavou.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Aile de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est éditée par l'École des Loisirs. La musique au générique est tirée de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chen. À bientôt pour un prochain épisode sur Aile de Géant.